Talmudique, une émission de Marc Alain Wachnin. Giovanni Carreri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Vous êtes directeur à l'EHESS. Et j'ai eu le très grand plaisir de vous recevoir dans Talmudique il y a un mois. Et les auditeurs ont été particulièrement intéressés par votre réflexion sur les Juifs, Michel-Ange et la Chapelle Sixtine. Il m'a semblé important de poursuivre notre conversation autour de cette question et en particulier après les dernières émissions qui ont évoqué la figure du pape et le livre de Ruth, livre qui est au centre de la représentation des ancêtres du Christ dans la Chapelle Sixtine. Je rappelle que ces ancêtres constituent le quatrième niveau des fresques de la chapelle, entre le troisième niveau qui présente la lignée des papes et le cinquième niveau de la voûte. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à un site extrêmement bien fait qui propose une visite de la chapelle Sixtine en 3D. J'en ai donné l'adresse sur le site de l'émission. Nous avons vu ensemble que ces fresques proposent une dialectique du nom et de l'image. Les noms des ancêtres qui reprend la généalogie du premier chapitre de l'évangile de Matthieu, qui reprend lui-même la généalogie du dernier chapitre du livre de Ruth, apparaissent au centre de cartouches, de grands rectangles blancs en écriture monumentale, rectangles entourés de l'image de ses ancêtres, qui, comme vous nous l'avez expliqué, sont indépendantes de la liste des noms présents dans les cartouches. Ses ancêtres sont tous en position de torpeur, fatigués, tristes, las, occupés de manière dolente aux travaux domestiques du quotidien, aux gestes intimes de la toilette, à l'allaitement des enfants, aux travaux permis pour les Juifs de Rome de son époque, commerce des anciens vêtements et de chiffons, brocante de vieux meubles et la traditionnelle usure. Vous nous avez montré, Giovanni Carreri, et c'est votre hypothèse et votre nouvelle interprétation de la Sixtine, que cette juxtaposition des noms et des images était un montage, une fabrique idéologique fondatrice au cœur de la chapelle Sixtine, la manière dont Michel-Ange a choisi de mettre en scène la simultanéité de l'inclusion des Juifs par cette généalogie écrite, généalogie par la chair, et de leur exclusion du christianisme qui propose une nouvelle généalogie par l'esprit dans laquelle ces Juifs ne veulent pas entrer en attendant toujours le Messie, comme Vladimir et Estragon de la pièce de Beckett, toujours en train d'attendre Godot, pièce à laquelle vous consacrez justement un chapitre à la fin de votre ouvrage « La torpeur des ancêtres ». Valorisation et dévalorisation concomitantes, dites-vous, de ces ancêtres, attirance et rejet, forme dynamique et forme statique, ensemble de dialectiques et paradoxes qui sont à l'œuvre dans l'ensemble de toutes les fresques de la chapelle et qui participent à sa mise en mouvement esthétique et à la fascination qu'elle exerce sur le spectateur. De cette dialectique d'inclusion et d'exclusion, j'aimerais aujourd'hui voir avec vous d'autres aspects absolument passionnants qui, dites-vous, offrent des matériaux privilégiés pour vérifier l'interprétation que je viens de rappeler. Il s'agit d'un ensemble de trois rituels qui n'avaient pas lieu dans la chapelle elle-même, mais à l'extérieur, au cœur de la cité romaine. Et ces rituels, en tout cas pour deux d'entre eux, ont des liens très étroits avec la figure du pape. Le premier d'entre eux avait lieu à l'occasion de chaque nouvelle nomination du pape. Vous utilisez le mot très important et de chorégraphie pour le caractériser. Ce rituel porte le nom de possesso. Giovanni Carreri, de quoi s'agit-il ?
Chaque fois qu'un pape était nommé, donc il prenait son cheval et accompagné de sa suite, traversait la ville de Rome pour s'en emparer. Possesso, ça veut dire possession. Il prenait possession de la ville. Et cette cavalcade est riche en signification. Et parmi les premières rencontres du pape, se situe celle avec la communauté juive. Ça se passe à côté de Castel Sant'Ange. Et donc les Juifs attendent les papes, ils ont monté une sorte de baldaquin, ils ont la Torah, ils leur offrent la Torah, le pape reçoit la Torah, et il dit que c'est une loi digne de vénération, mais que les Juifs ne l'interprètent pas comme il faut. Et là, il accomplit un geste incroyable, c'est-à-dire qu'il jette la Torah derrière son épaule et reprend sa cavalcade. Peut-être pourrais-je lire deux, trois pages d'un des comptes-rendus de cette cérémonie, celle du 26 août 1471, à l'occasion du possess de Sixte IV. Alors, je cite l'un des diplomates qui racontent cette histoire au duc de Milan. À l'arrivée du pape, les Juifs lui présentèrent une Bible en lui disant que c'était la loi de Moïse et qu'il veuille bien la confirmer. Le pape répondit, cette loi était bonne autrefois, mais puisque le vrai Messie annoncé en la dite Bible était venu, et puisqu'il ne l'avait pas reconnu, et puisqu'encore maintenant ils persévéraient dans leur erreur, il n'était pas exaucé, et alors il jeta la Bible derrière son épaule et passa outre. Alors la lecture de l'ensemble de ces comptes rendus présente un grand intérêt. D'une part, il faut rappeler que les Juifs étaient à Rome avant que le christianisme s'y impose. Et ils sont donc citoyens romains à plein titre et le pape, d'une certaine manière, vient remplacer l'empereur comme, disons, du point de vue du pouvoir politique auquel il s'adresse et auquel il demande protection, puisqu'il s'agira de parler ici de cette protection dont les Juifs de Rome jouissait, une protection spéciale qui n'était pas celle de tous les Juifs d'Italie, protection et en même temps menace. Qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre rituelle? Les droits des Juifs de rester à Rome sont confirmés et en même temps cette loi qui est le livre commun aux Juifs et aux chrétiens, il est rejeté. Il y a une superposition entre le pape comme chef politique et le pape comme chef d'une religion qui est en partie commune et en partie différente. Et ces gestes, je l'interprète vraiment comme un geste de construction d'un temps historique. L'avant, c'est derrière, on les jette derrière et on répare. Et on répare en avant. Les Juifs, donc, ils sont dans une position symboliquement très fragile. À chaque fois qu'un nouveau pape est élu, ils doivent renégocier leur état d'exception. Exception parce que ils peuvent continuer à vivre selon leurs lois dans un pays chrétien qui n'observe pas les mêmes lois. Mais cette exception est une concession. Théoriquement, elle peut être suspendue à tout moment. Voilà. Peut-être est-il important de rappeler que ce rituel n'est pas éternel et qu'il subit des variations importantes à ces moments très délicats de l'histoire de la ville de Rome. Et au départ, par exemple, lors du possess de Jules II, c'est le médecin même du pape, le rabbin Sarfati, qui offre une Bible très, très bien décorée, ornée au pape. C'est un possess très impérial. Et plus tard, avec les mesures de réforme de l'Église, cette espèce de perspective de la purifier, l'Église, d'en exclure de plus en plus les Juifs, qui culmine avec la bulle du pape Caraphe en 1565, les Juifs seront enfermés dans les ghettos. Ils n'auront donc plus le droit de vivre parmi les chrétiens, comme disent les textes de ces rituels. Et à ce moment-là, on leur demandera d'attendre les papes ailleurs, dans un endroit spécialement conçu pour une sorte d'humiliation rituelle, puisqu'ils doivent attendre les papes à côté de l'Arc de Tite, qui célèbre la victoire des Romains sur les Juifs. Et ils n'en leur offriront plus la Torah, mais ils vont brandir des panneaux écrits en lettres hébraïques d'exaltation du pape. Donc cette situation dont on va parler aujourd'hui, très riche, complexe, dans laquelle les Juifs et les chrétiens, à travers la figure du pape, sont à la fois des frères et des ennemis. C'est Adriano Prosper, l'historien auquel je m'inspire beaucoup, qui parle d'une agressivité fraternelle. Eh bien, cette situation, qui est aussi celle qui a permis dans la chapelle Sistine que les Juifs aient une place si importante, même en tant que Juifs non convertis, cette situation se termine d'une certaine manière avec le pape Carafe, dont il sera question peut-être aussi tout à l'heure, parce qu'à sa mort, les Juifs s'endorment en corps joie, et il y a des scènes de jubilation, et il y a même le corps du pape est profané, la ville est saccagée, peut-être on reviendra
sur ce point tout à l'heure. On va y revenir. Alors, ce qui est très important dans ce que vous venez de nous préciser, c'est ce mouvement encore d'inclusion et d'exclusion. Ils sont inclus comme citoyens, le pape les reconnaît comme citoyens, et là, il prend la place de l'empereur, et en même temps, il les exclut de la généalogie chrétienne, si on peut dire, par ce geste très chorégraphique, comme vous avez souligné, en balançant la Torah ou le livre de la Bible derrière son épaule. Et je me suis demandé, en lisant ces textes, si dans la chapelle Sixtine, bien sûr, il y a donc cette explication de la présence des Juifs, de cette inclusion, mais en même temps de leur exclusion par la torpeur, comme vous nous l'expliquez. Mais je me suis demandé si ce geste de la main ne reprenait pas le geste du Christ dans la fresque elle-même, du jugement dernier.
J'ai plutôt établi un lien avec les gestes de Moïse qui jette les tables de la loi qui est dans la chapelle Sixtine et qui le fait par dépit. Et d'une certaine manière, le lien entre le pape et Moïse est au cœur des fresques du Quattrocento de la chapelle Sixtine. Je rappelle que à droite et à gauche, les scènes de la vie du Christ font face à celles de la vie de Moïse. Donc le pape est un nouveau Christ, mais aussi un nouveau Moïse.
Oui.
Et lorsqu'il jette la Torah, qu'est-ce qu'il fait? D'une certaine manière, il rejette les Juifs comme idolâtres. Vous proposez de regarder au geste du Christ, qui est un geste, d'exclusion, d'une certaine manière. Donc là aussi, si on considère la fresque du jugement dernier comme un corps qui est en train de se fermer avec les membres qui sont les élus et la tête du Christ et tout ce qui doit rester en dehors, le geste, effectivement, est analogue.
Parce qu'on voit vraiment le bras levé du Christ, un petit peu comme si il venait de balancer, de jeter la Torah à l'extérieur. Alors, ce rapprochement entre Moïse et le pape est aussi quelque chose de très central et fondamental dans l'œuvre de Michel-Ange, puisque son grand-grand Moïse est justement, paradoxalement, un Moïse assis avec les tables qu'il n'a justement pas jeté. Et on a l'impression que peut-être, en dehors de l'interprétation qu'en a faite Freud, qui explique que c'est le moment où il aurait voulu les jeter mais il les a pas jetés, peut-être que là il y a un jeu de réparation de ce possesso ou de ce rituel que Michel-Ange fait dans sa grande œuvre de Moïse.
En même temps, l'essence de cette rencontre est de confirmer l'importance exceptionnelle accordée à cette relation qui fait que le pape doit rencontrer les Juifs. Et les Juifs sont aussi au cœur d'autres rituels.
Et ce que l'on va voir, parce que justement, ce qui me semble vraiment très important dans votre hypothèse et dans votre texte, c'est le fait que il y a une sorte d'ensemble d'équation symbolique entre les Juifs et le pape, entre le corps des Juifs et le corps du pape, et que sans ces équations, sans cette complexité subtile, si on peut dire, de ce lien paradoxal entre les Juifs et le pape, il n'y aurait peut-être pas de papauté d'une part, mais il n'y aurait surtout pas la chapelle Sixtine.
Thank you.
Giovanni Carreri, nous venons d'entendre le final du couronnement de Poppée de Monteverdi, chanté par Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jarouski et l'ensemble Ataserce. C'est après sa rencontre de deux poètes importants, Le Tasse et Guarini, que Monteverdi désira montrer que la musique n'avait plus à dominer le texte, mais au contraire à mettre en valeur la parole et le sentiment que traduit la poésie. Vous avez beaucoup travaillé sur Le Tasse et son œuvre, La Jérusalem délivrée, et bien que plus tardif que Michel-Ange, j'ai l'impression que ces deux artistes, chacun dans son domaine, c'est-à-dire Michel-Ange et Monteverdi, ont été un moment artistique charnière entre l'ancien et le nouveau.
Tout à
Giovanni
fait.
Carreri.
Du point de vue de la subjectivité dite moderne, d'un sujet qui se regarde, qui s'observe, et d'un sujet aussi qui est souvent scindé, je pense à Tancrède, l'héros chrétien amoureux d'une guerrière musulmane qui est à la fois son amant et son assassin. Et donc ces relations paradoxales d'amour et de guerre qui lient aussi les juifs et aux chrétiens d'une certaine manière dans la Rome de l'époque. On a parlé de fraternité et d'agressivité fraternelle. Et Adriano Prosperi a une très belle expression. Il dit cette agressivité fraternelle reste pétrifiée dans les rituels, ne se déclenche pas. Ce qui est vrai jusqu'à un certain point.
L'importance du rituel dont nous venons de voir avant ce magnifique morceau de musique, un premier rituel qui s'appelle le possesso, il y a un deuxième rituel qui a lieu au moment du carnaval romain. Carnaval romain très particulier puisque jusqu'au moment où le carnaval a disparu, c'était les juifs qui devaient le payer. Le payer, et vous expliquez toujours avec un multiple de 30 pour rappeler les 30 deniers de la traîtrise de Judas. Et pendant ce carnaval, il y a un autre rituel me semble très important et qui va aussi expliquer la présence des juifs dans la chapelle Sixtine, c'est le rituel de la course des juifs pendant le carnaval. Giovanni Carreri.
Alors vous l'avez rappelé, les juifs étaient tenus de payer cette fête très importante, qu'au début se tenait en marge de la ville, dans les quartiers du Testaccio, qui a des caractères plus marqués de fête populaire, mais qu'à l'époque de la chapelle Sixtine, on commence à célébrer sous la Via del Corso, au centre de Rome. Donc on passe d'un rituel dans lequel les participants sont en même temps acteurs et spectateurs, il n'y a pas de scène, à une situation plus scénographique. On regarde donc ces courses qui se font sous la Via del Corso. Il faut rappeler qu'auparavant, le premier jour du carnaval, les Juifs sont honorés. Mmh. Ils défilent au début du défilé, armés, alors qu'ils n'avaient pas de portée des armes, très bien habillés. Le troisième jour commence ces paalis, ces courses, dans lesquelles les Juifs courent un jour, qui est le dernier jour de ces courses, après que d'autres catégories aient été invitées à courir, les jeunes, les vieux, mais aussi des animaux, les buffles et les ânes. Et ces courses sont des courses déshabillées, c'est-à-dire les Juifs sont obligés de courir nus, c'est pas la nudité intégrale. Et bien sûr, ces courses sont l'objet d'un rire humiliant, comme celui qui accompagnait les vieux, sans doute. Mais ces rires humiliants et particuliers pour la catégorie, si je peux dire, des juifs coureurs, parce que c'est les seuls qui sont stigmatisés par leur
nudité.
Oui. Et donc là encore, nous avons cette double dimension, l'inclusion triomphale le premier jour du carnaval, l'exclusion les derniers jours, aussi l'apparition de cette dimension charnelle, de cette dimension de la chair, qui est le substrat commun aux chrétiens et aux juifs, qui est dans la chapelle Sixtine un rôle si important, qui a un aspect juif, mais qui ne peut pas être que des juifs, et que pour les chrétiens devient l'objet d'une opération de transformation, de transcendance, et alors que les juifs ne participent pas de cette transformation, de cette transcendance. Donc encore une fois, j'ai voulu chercher, en dehors de la chapelle Sixtine, une analogie entre l'analyse de l'action rituelle et l'analyse de la forme de la chapelle Sistine. J'ai beaucoup fréquenté d'anthropologues qui m'ont un peu appris cette manière de procéder.
Donc là, on vient de voir encore inclusion et exclusion. Et comme vous venez de le souligner, le corps apparaît dans sa nudité. D'ailleurs, au-dessus de certaines lunettes où se trouvent les ancêtres, il y a des bronzes, enfin des fresques qui ressemblent à des bronzes nus et qui reprennent un petit peu cette course des juifs nus. On a d'ailleurs trouvé, et vous le rapportez dans votre livre, une très belle image de Jacopo Loro, La course des juifs, qui a été découverte par Martine Boiteux, une image de 1630. Vous dites que cette course s'est arrêtée en 1668, donc c'est quand même très très tardif. Mais ce qui est le plus marquant, donc, c'est cette apparition de la nudité, qui est un rituel qui va se renforcer dans un troisième rituel qui, lui, a lieu lors de la mort du pape. Et c'est un rituel que vous appelez rituel de saccage.
Oui, c'est Carlo Ginzburg qui a étudié ces rituels. Je l'ai repris son analyse en la développant d'une manière peut-être un peu audacieuse. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'à la mort du pape, son corps est outragé. Il est abandonné nu. Et les serviteurs et les autres, la populace, s'emparent de ses biens et des biens des juifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les juifs, étant considérés comme protégés par le pape, sont des biens du pape, comme ses palais, et donc il faut qu'ils se cachent bien pour essayer de ne pas être agressés et volés. Et ça, c'est un premier aspect de cette situation qui est un rituel de passage. La mort du pape est un moment difficile pour la papauté parce qu'il n'a pas d'enfant en principe. Et donc, il faut que l'Esprit Saint, à travers le conclave, désigne un successeur. Donc, c'est un moment de très grande incertitude et de violence. La chose intéressante, c'est que cette association des Juifs au pape donne lieu à des situations d'une très grande subtilité. Parce que du moment où les chrétiens outragent le corps du pape, ils se mettent du côté, entre guillemets, des juifs qui outragent le Christ. Le pape étant le successeur du Christ, il y a un renversement tout à fait intéressant. C'est un premier renversement. Et donc, qui montre cet retour, d'une certaine manière, du corps charnel du pape du côté de son origine et de sa racine juive, étant donné que le pape est le successeur de Pierre, qui était juif et qui était nommé. Et donc, cette espèce de relation intime entre le corps du pape et la chair juive. Alors, il y a parmi tous ces épisodes de spoliation, il y en a un particulièrement violent qui se produit après la mort du pape détesté par les juifs, Caraf. On raconte qu'à sa mort, donc le peuple romain se donne à cœur joie, et il y a des saccages, c'est un mélange parce que c'est aussi le collecteur des impôts qui est d'une certaine manière, c'est lui qui impose l'impôt qui est attaqué. Les juifs participent de cette fête et il y a un récit qui raconte comment l'effigie du pape est donc une sculpture, une statue, est portée à un cortège, en dérision dans la ville de Rome, et qu'un juif le coiffe de son chapeau jaune avant que cette sculpture soit jetée dans les Tibres. Alors ce geste est étonnant. Parce que d'une certaine manière, dans un premier moment, on peut dire que les juifs se vengent, que les signes d'exclusion qu'il avait portés sur sa tête à cause du pape, il le remet sur la tête, donc c'est assez réjouissant. Et d'une autre manière plus subtile et peut-être plus profonde, c'est ces liens entre le pape et les juifs qui est paradoxalement rétabli.
On a vraiment l'impression, en vous lisant, que il ne peut pas y avoir de pape sans juif. Il peut pas y avoir de chapelle Sixtine sans cette présence justement des juifs par rapport à ce que vous appelez justement la carnalité juive. Et vous montrez comment, par exemple, au moment de sa mort, le pape va être justement, va retrouver son corps terrestre. On pourrait dire son corps, humain, mais c'est justement dans ce moment où il n'est plus le corps de l'Église qu'il retrouve son origine la plus charnelle, c'est-à-dire la plus juive, la plus christique, mais la plus juive. Et vous dites à ce moment-là que cette hypothèse peut expliquer pourquoi la tradition veut que, même si ce n'est pas une règle ou une loi, que le médecin du pape soit un juif. Et vous avez évoqué tout à l'heure le médecin Sarfati, et là vous expliquez que le médecin juif, pourquoi il a besoin d'être juif. Alors vous dites qu'il y a deux hypothèses. On peut imaginer toute une série de raisons négatives visant à cacher aux yeux des médecins chrétiens la dimension terrestre et mortelle du souverain pontife, mais on peut cependant avancer l'hypothèse que l'accès au corps du pontife, substitut du Christ, ait pu être réservé à un médecin qui, par son appartenance au peuple d'Israël, partageait avec le Fils de Marie et avec ses substituts une chair originelle et donc forcément juive. Et vous ajoutez, on touche ici à une composante de la définition de la position idéologique du corps du juif qui est proche de celle qui définit le corps des ancêtres.
Oui, c'est précisément cette chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est Pallavicini Bagliani, un grand historien qui s'est occupé du corps du pape, qui est à l'origine de ces réflexions. Et il faut dire que ce que j'ai pu faire, c'est réunir certaines de ces analyses de rituels et de les mettre en rapport avec la Sistine, mais non seulement avec la Sistine, mais aussi avec certains dessins qui montrent le corps du pape nu, des dessins de Michel-Ange, que j'ai mis en rapport avec les dessins préparatoires des ancêtres et qui montrent que cet artiste, connu pour ses nus athlétiques, par ses mouvements intenses, raccourcis, serpentines, il est aussi un grand artiste de l'abandon du corps abandonné, du corps charnel, justement. Et en comparant ces dessins du corps du pape nu avec les dessins des corps des ancêtres, il y a une sorte de confirmation par les yeux de ces idées que j'avance, qui sont des hypothèses.
Des hypothèses qu'on retrouve donc dans la chapelle Sixtine de manière extrêmement forte, dans le tourbillon de tous ces corps glorieux du jugement dernier, et cette apesanteur qui est justement pas seulement l'exclusion des juifs, mais l'inclusion lui-même du corps du pape. C'est ce qui est absolument fascinant, passionnant dans vos travaux et dans ce livre La torpeur des ancêtres, c'est que on a ce sentiment que cette inclusion et l'exclusion des juifs, c'est aussi l'inclusion et l'exclusion des chrétiens eux-mêmes dans la chair, la carnalité, vous dites, des juifs, et qui donne toute cette, je dirais, dynamique intellectuelle que vous nous proposez. Et je me suis demandé, en vous lisant, à partir de cette réflexion sur la généalogie des noms et la généalogie selon la chair et la généalogie selon l'esprit, j'ai pensé immédiatement, en termes philosophiques, à ce texte de Nietzsche qui s'appelle « La généalogie de la morale ». Et le terme de généalogie, bien sûr, n'est pas anodin. Et je vous cite un passage qui sera peut-être simplement là pour qu'on puisse le méditer plus tard. Je cite, il dit « Lequel des deux peuples a vaincu provisoirement, Rome ou la Judée ?» Mais la réponse n'est point douteuse, que l'on songe plutôt devant qui, aujourd'hui à Rome même, on se courbe comme devant le substratum de toutes les valeurs supérieures. Et non seulement à Rome, mais sur toute une moitié de la terre, partout où l'homme est domestiqué ou tend à l'être, on se prosterne devant trois juifs, on ne l'ignore pas, et devant une juive, devant Jésus de Nazareth, devant le pécheur Pierre, devant le tisserand Paul, et devant la mère du susdit Jésus nommé Marie. Voilà un fait bien remarquable. Sans aucun doute, Rome a été vaincue. Il est vrai qu'il y a eu pendant la Renaissance un réveil superbe et inquiétant de l'idéal classique, de l'évaluation noble de toute chose. La Rome ancienne, elle-même, se mit à s'agiter, comme si elle se réveillait d'une léthargie, écrasée comme elle l'était par une Rome nouvelle, cette Rome judaïsée, édifiée sur des ruines, qui présentait l'aspect d'une synagogue œcuménique et que l'on appelait église.
Magnifique.
Donc ça nous aidera peut-être à réfléchir. Donc j'allais vous dire, Giovanni Carrari, qu'est-ce que vous en pensez? Mais l'émission est déjà terminée. Merci infiniment vraiment pour ce très précieux dialogue. Je renvoie à votre livre, La torpeur des ancêtres, juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine, pour lequel je redis tout mon enthousiasme et la jubilation que j'ai eue à le lire et qui m'a ouvert de nouvelles perspectives, et je pense aussi aux auditeurs, des nouvelles perspectives de recherche absolument fondamentales. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, il faudrait dire presque comme toujours, Philippe Palares. Réalisation, Philippe Baudouin. Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.